Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission consacrée au savoir-faire français. Comme vous le savez, la pénurie des matières premières s'aggrave dans beaucoup de secteurs. Le bois, les métaux, le plastique, le verre. Aucune matière première n'est épargnée par la crise globale entraînée par de nombreuses pénuries. Les retards s'accumulent, mettent en difficulté les entrepreneurs français. Alors comment s'organisent-ils? Quel est leur état d'esprit après quasiment 2 ans de crise sanitaire? À quand un retour à la normale? À Sud Radio, dans C'est ça la France, nous avons souhaité leur donner la parole. Bienvenue dans notre spécial « Face à la pénurie des matières premières ».
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Alexandra Brousseau de la manufacture Brousseau Fleuron des chaussettes Made in France. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Cette entreprise, donc, elle est dirigée par vous et votre mari, Aymeric Brousseau, depuis 2006. Oui. Mais c'est une entreprise qui fait partie de la famille depuis 1938.
C'est
peut-être
ça.
Dans un premier temps, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la maison Brousseau, mais qui ont sûrement déjà porté une chaussette fabriquée par vous, nous rappeler justement peut-être quelques marques hein, très connues qui travaillent avec vous. Je sais que vous avez près de 160 clients, on ne va pas tous
c'est
les citer.
C'est ça, non, exactement, on travaille en effet avec beaucoup de marques. C'est des l'Archiduchesse, c'est le Slip français, c'est Bonne Maison... C'est atelier particulier, en effet, il y a de très nombreuses marques. Forcément, je peux pas tous les citer parce que, comme vous le dites, il y en a 160 et voilà. Donc,
c'est combien de salariés aujourd'hui, la maison Brousseau, la manufacture Brousseau?
C'est 64 salariés. On est 64 salariés à temps plein. On a une équipe qui tourne en 3-8. Hein, la partie tricotage tourne 24 heures sur 24.
Alors, c'est une entreprise du patrimoine vivant située à Lécarce, hein. C'est un petit village de 500
exactement.
Habitants
on
dans
est
le Limousin.
On a 27 kilomètres au sud de Limoges, la limite de la Dordogne. On est dans le bâtiment historique, hein, le bâtiment qu'avait acheté à la base le grand-père, hein, au début, en 1936, il avait acheté. Après, voilà, le temps de monter l'entreprise, après, il a fait des agrandissements, etc. Donc voilà, mais on est toujours dans le même lieu depuis le début.
Alors, c'est une entreprise qui compte dans l'industrie textile, notamment dans la bonneterie. Vous avez également le label Origine France Garantie, donc vous êtes des fervents défenseurs du fabriqué en France.
Exactement.
Et là, vous devez faire face, comme beaucoup d'entreprises, à la pénurie de matières premières accompagnée d'une flambée des prix.
En fait, oui, c'est ça. Depuis quelques mois, hein, c'est compliqué. Ça a commencé surtout l'année dernière, 2021, a été vraiment difficile. Sur certaines qualités, on a beaucoup de mal à s'approvisionner, notamment les cotons bio, hein, parce que aujourd'hui, il faut savoir que le coton bio, ça a le vent en poupe, donc très bien. Hein, les gens ont cette envie de démarches plus écologiques. Et c'est top. Le problème, c'est que face à la demande mondiale, ça ne fournit plus en fait. Donc déjà, il y a un vrai problème sur le coton bio. Et puis on a nos cotons classiques et puis certaines parce qu'en fait nous on s'approvisionne en Europe. On a nos fournisseurs
Italie,
sont français,
Portugal.
France, Italie, Portugal. Mais le problème c'est que pour la construction de fils, notamment les polyamides, nous on met du lycra dans nos chaussettes, un véritable lycra. Le lycra c'est composé d'une fibre élastane. Avec une fibre de polyamide. On a besoin, il y a certains matériaux qu'on est obligé d'importer d'Asie. Et là, c'est compliqué parce que là, avec la crise du Covid, on sait tous que les imports d'Asie ont été très compliqués. Le coût des bateaux, des containers, ça a décuplé. Et puis, beaucoup plus long, quoi, parce que l'Asie se garde ses productions pour eux en premier avant de les envoyer en Europe. Et du coup, on a eu des gros soucis d'approvisionnement sur nos fibres, donc élastane. Et puis les cotons qui deviennent plus compliqués parce que notre coton, nous, nos teinturiers, en effet, comme vous le disiez, ils sont au Portugal ou en Italie ou en France. Mais par contre, la fibre, la culture, elle n'est pas européenne. La fibre, le coton par lui-même, il est cultivé en Inde. L'Inde a été vraiment frappée par la crise du Covid. Nous, on a eu du mal à la gérer, mais en Inde, ça a été assez catastrophique. Les filatures ont été fermées pendant des mois. Et donc, forcément, ça n'a pas pu, enfin, le coton n'a pas pu être expédié d'Inde. Donc, il a fallu se rabattre sur des cultures turques. Mais la Turquie ne peut pas approvisionner l'Europe entière. Ils n'ont pas la capacité pour. Donc, oui, il y a de gros soucis d'approvisionnement sur ces matières.
Vous le disiez, parce que c'est depuis l'année dernière, enfin depuis même le 9 avril dernier, l'Union des industries textiles relayait déjà cette inquiétude des entreprises qui sont impactées depuis le début de l'année cette pénurie de matières premières.
En fait, en 2020, on a été alertés que ça allait être compliqué, qu'on allait avoir forcément des impacts, parce que déjà, nous, les cotons commençaient à avoir du mal à partir justement d'Inde, etc. Le problème du coton bio, déjà en 2019, on commençait à en parler. En 2020, ça s'est vraiment confirmé. Et puis là, 2021, ça a été assez catastrophique. Et donc oui, ça, on le sait depuis des mois. Mais le problème, c'est que même en le sachant, il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution.
Oui, parce qu'on pourrait se dire les prix sont négociés à l'année, mais il y a les coups de force majeurs qui font qu'ils peuvent augmenter les prix d'un coup, c'est ça?
Ouais. Exactement. En fait, c'est ça. Parce que nous, en fait, nos prix, normalement, sont négociés à l'année avec certains fournisseurs, voire de manière semestrielle. Et en fait, avec nous, nos clients finaux, nous, nos prix sont négociés de manière semestrielle, en principe. Et en fait, nous, nos fournisseurs, depuis mars, en fait, 2021, donc bientôt un an, on a des augmentations régulières et sur lesquelles on ne peut rien faire parce qu'ils passent ça, en effet, en force majeure, cas de force majeure. Et du coup, on se retrouve avec des augmentations qui sont délirantes. Alors, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, entre mars 2021 et décembre 2021, on a eu une augmentation moyenne de 22% sur nos matières. Et là, depuis le mois de janvier 2022, donc en l'espace de 3 semaines, on a eu 28% d'augmentation supplémentaire.
Ouais. Donc sur le terrain, la situation est de plus en plus compliquée pour les professionnels du textile. Comment faire face alors ?
Ce qui est dramatique, c'est que nous, on a nos coûts de revient qui augmentent énormément. Nous, forcément, on essaie de le réimpacter à nos clients, mais on peut pas le faire en totalité parce que eux, forcément, ils vont être obligés de l'impacter sur leur prix de vente final. Donc c'est le consommateur final qui va devoir prendre en charge tout ça. Donc tout le monde, là, on fait tous dans le schéma, que ça soit nos clients, nous, on essaie tous de réduire nos marges, mais à un moment donné, on est obligés tous d'appliquer des augmentations et là, on n'a pas le choix. Donc on a essayé de voir avec nos fournisseurs, nous, au départ, pour essayer de se stocker. On s'est engagé sur des gros volumes à long terme pour pouvoir essayer d'optimiser nos achats et du coup les coûts. Mais là aujourd'hui, ça ne marche plus. Si ça a marché les premiers mois, aujourd'hui tout le monde fait ça. Donc et du coup les filateurs
et tout le monde se redirige vers les mêmes autres pays. Vous parlez de la Turquie et donc le problème il se répercute à la Turquie après.
Ouais. Mais oui, parce que de toute manière sur la culture de coton, il n'y a pas énormément d'endroits. De toute manière, il y a aujourd'hui l'Inde, c'est le premier lieu. Il y a la Turquie. Pour la partie Europe, c'est vraiment les deux endroits où il y a le plus de culture. Après, il y a l'Égypte, il y en a de moins en moins. Le coton égyptien coûte très cher, donc nous, on en utilise du coton égyptien pour certains de nos clients. Donc, c'est un coton qui est très onéreux parce que déjà, il est fait en petite quantité. Et après, il y a l'Amérique du Sud, il y a un petit peu la Chine. Mais par exemple, l'Amérique du Sud, c'est consacré aux productions américaines. Ça vient pas sur le territoire européen, en fait. Ouais. Et la Chine, pareil, c'est pour leur consommation asiatique. Donc on est un petit peu coincé, ouais.
Voilà, vous êtes coincé. Donc vous le disiez, aujourd'hui la seule possibilité, c'est de voir avec vos clients pour répercuter une partie des coûts. Est-ce qu'ils le comprennent ça, eux?
La plupart, oui. On a des vraies discussions, parce que nous, nos clients aujourd'hui, c'est des partenaires. Cultivé cette relation avec nos clients, qui sont plus des relations de partenariat. Donc nous, on est très transparent avec eux. On leur dit clairement les choses. Moi, j'ai pas de secret sur mes marges. Mes clients le savent. Moi, je leur expose exactement les problématiques. On essaie de trouver des solutions ensemble. Par contre, aujourd'hui, eux me disent aussi clairement, Alexandra, on ne peut pas absorber ça. Donc ben nous on prend. Donc là nous on diminue sur nos marges. Donc là c'est ce qu'on a fait en 2021, c'est ce qu'on est en train de faire en 2022. Mais à un moment donné ça va poser un vrai problème parce que même si l'entreprise se porte bien, qu'elle a une trésorerie, elle a une bonne santé financière
et qu'il n'y a pas eu d'arrêt de l'outil de production, ça c'est important aussi. Ouais.
Exactement, on n'a jamais arrêté, mais c'est vrai que là on est en train de prendre un petit peu sur nos ressources pour pouvoir absorber tout ça. Mais cette solution là, elle peut être que momentanée, elle ne peut pas être pérenne.
Bien sûr, et c'est important d'en parler pour les consommateurs qui nous écoutent, parce que ce prix risque d'être, enfin, cette pénurie risque de se ressentir dans les prix de vente des chaussettes, mais il faut le comprendre que c'est une période actuelle qui est extrêmement délicate pour tout un écosystème, toute une filière.
Exactement, exactement. Là, tout le monde est impacté, donc en fait, il faut que chacun prenne de sa partie, en fait. On n'a pas le choix, il faut se serrer les coudes, comme on dit, c'est ce qu'on se dit avec certains, justement, de nos clients. On est tous ensemble dans le même bateau, et au final, que ça soit du producteur jusqu'au consommateur final. Donc nous, on est conscients que le consommateur final va devoir payer, et il se dit, ben voilà, c'est encore à nous de devoir assumer tout ça. Mais non, c'est pas vrai.
Non, parce que le consommateur, toute étape de production.
Ouais. Le consommateur final va en prendre une partie à sa charge. Ben oui, parce que les prix vont augmenter au final. Mais il faut savoir que c'est pas lui qui va tout prendre. Le producteur en prend une partie à sa charge. La marque en prend une partie à sa charge parce que les marques sont en train de réduire aussi un petit peu leur marge. Tout le monde est en fait en train d'en prendre une partie. Mais encore une fois, cette solution, elle ne peut être que momentanée. C'est pas possible, sinon ça ne sera pas viable.
Si on continue, il n'y a pas de visibilité pour la suite aujourd'hui.
Aucune. Aucune, clairement aucune. Nous, on essaie justement, vous voyez, j'en parlais avec le Slip français vendredi matin de cette problématique, parce que voilà, c'est quand même une grosse difficulté. Le Slip français est un client important chez nous. J'en ai parlé avec Archiduchesse, enfin voilà, on en a parlé avec plusieurs. Et on disait, il faut qu'on arrive à monter au créneau un petit peu en termes politiques, parce qu'il faut qu'on arrive à...
Alerter les pouvoirs publics sur la situation
exactement,
du textile.
Exactement, voilà. Moi, je sais que j'avais la région Nouvelle-Aquitaine au téléphone la semaine dernière également pour leur expliquer la situation, parce que voilà, moi, je leur ai dit, nous, on a la solution là, on serre les dents depuis 2021, là, on est conscient qu'il va falloir le faire en 2022, mais il va falloir que ça s'arrête.
Mais on ne pourra pas aller au-delà.
Non, on ne pourra pas aller au-delà.
Sans aide. Merci beaucoup Alexandra Brousseau pour votre témoignage qui est extrêmement clair et c'est vrai que ce témoignage, il vaut pour le textile, il vaut aussi pour d'autres secteurs. En ce moment, il faut le rappeler aux consommateurs français que nos entrepreneurs font énormément d'efforts, que cette pénurie, c'est un vrai souci et qu'on espère que vous serez entendu aussi du côté des pouvoirs publics pour
que cette situation ne perdure pas. Merci à vous de m'avoir laissé la parole.
Merci à vous. Et puis, on reprendra de vos nouvelles de toute façon.
Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup.
Très belle journée, Alexandra Brousseau. Et bonjour à Aymeric Brousseau également.
J'y manquerai pas. Au revoir.
Au revoir. Le phénomène de pénurie s'est répandu comme une traînée de poudre et entraîne une baisse de production dans d'autres secteurs également, et notamment celui des sirops. On en parle dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Dans notre spécial, face à la pénurie des matières premières. Et oui, les industriels s'inquiètent de cette pénurie de matières premières. Et dans C'est ça la France sur Sud Radio, on a souhaité leur donner la parole.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et après le secteur du textile, on va rejoindre celui du sirop avec Olivier Mercier, président du syndicat français du sirop. Bonjour Olivier Mercier.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Alors le syndicat français des sirops, il faut le rappeler, représente 13 entreprises qui produisent et commercialisent 90% des sirops consommés en France. On est nombreux à boire du sirop, on a une idée de la quantité de sirop consommée chaque année par les Français ?
Alors oui, effectivement, vous avez raison. Alors, le syndicat des Français, c'est même plus que 13, c'est plutôt 17 entreprises. C'est à la fois des PME artisanales et des entreprises plus industrialisées. C'est effectivement 80% des sirops sont consommés en France. C'est quand même une spécificité du patrimoine gastronomique français. C'est protégé par des réglementations. On a un décret.
Pour éviter les imitations. Hein.
Exactement. Et puis, il faut 50% de sucre pour avoir la dénomination sirop. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement encadré. C'est des PME qui, généralement, sont bi- ou tricentenaires. C'est vraiment un savoir-faire qui est transmis depuis des siècles. Et donc, aujourd'hui, le syndicat français Siro est là pour accompagner ses adhérents au développement et à l'évolution du marché. Donc, voilà en quelques mots notre marché. Comme vous le disiez très justement, aujourd'hui est consommé et bu en France plus d'1,5 milliard de litres de boissons à base de sirop. Et on va dire que deux Français sur trois consomment du sirop à raison de 3, 4 bidons ou bouteilles par an.
Et si on devait comparer ça avec le soda, on est au-dessus, hein, largement au-dessus des sodas.
Alors, si, il faudrait comparer ça effectivement quand la spécificité du sirop, c'est que finalement c'est un produit qui s'inscrit finalement dans les tendances de consommation, puisqu'aujourd'hui, avec un litre de sirop, on peut faire 10 litres de boisson. Exactement. Et alors, ça a l'avantage d'être. On peut quelque part le diluer comme on l'entend, plus ou moins sucré. On a aujourd'hui une gamme qui s'est fortement diversifiée avec à la fois des gammes bio, à la fois des gammes avec des arômes naturels de plus en plus. Donc on a vraiment ce savoir-faire qui a su évoluer aussi à travers le temps et en fonction aussi des besoins des consommateurs et de leurs attentes, puisqu'il nous paraît extrêmement important d'accompagner nos consommateurs, c'est notre savoir-faire.
Alors, on va revenir justement sur le sujet du jour, l'explosion du prix des matières premières qui l'a fait peser un risque fort sur les entreprises du sirop, parce que là encore, tous les ingrédients sont concernés quasiment.
Alors exactement, c'est vrai que c'est une inquiétude auquel le syndicat fait face et au travers du syndicat, ces entreprises, qu'elles soient artisanales ou industrielles.
C'est jamais vu pour vous ça.
C'est pour nous assez étonnant et c'est du jamais vu comme vous le dites, puisque cette explosion des matières premières, elle a lieu à la fois sur les matières premières agricoles, mais également de fortes proportions sur ce qui est non agricole. C'est-à-dire, si je parle du bidon acier, si je parle de la bouteille verte, si je parle du PET, aujourd'hui, on a des augmentations qui vont du bidon à plus 50% en moyenne, encore une fois. La bouteille verte est autour de 15% et le PET de plus 25%. Et donc ça impacte énormément le prix de fabrication de nos sirops. En parallèle de cela, on a un sucre. Alors, en fonction de si vous travaillez sur du saccharose ou sur l'isoglucose, on a vu un saccharose qui a été en moyenne à plus 10%, voire un peu au-dessus, et l'isoglucose qui vient finalement du blé dur, qui vient du maïs, sur lequel cette année les récoltes ont été extrêmement difficiles, on a vu une envolée de l'isoglucose à des plus 80%.
C'est-à-dire qu'en fait, vous cumulez deux choses, la crise sanitaire pour tout ce qui est contenant, et pour le contenu, il y a le dérèglement climatique, donc là encore, exactement, il y a un impact, et il y a les fruits également qui font partie des matières premières.
Le troisième ingrédient, effectivement, qui sont les fruits, notamment les fruits rouges. Alors, on a vu les gelées au printemps, et ça a du coup amené à avoir des fruits rouges tels que le cassis, on l'a vu, qui a plus que doublé son prix, la pêche plus 50%, le sureau également a doublé. Donc on a tous nos ingrédients. Alors, en plus, on est des produits concentrés, donc finalement, on concentre également les impacts. Contrairement à, je dirais, une boisson prédiluée, où il y a quand même déjà une grosse quantité d'eau, finalement, oui, tout est concentré. Donc, mécaniquement, nos besoins pour financer et sont beaucoup plus forts que nos concurrents, quelque part, puisqu'on est concentré. Maintenant, quand on regarde le prix, finalement, au litre de la boisson consommée, on est bien en deçà, puisqu'on doit être 5, en fonction des produits, 5, 6, 7 fois moins cher qu'un produit déjà pré-mélangé.
Voilà, vous souhaitez bonne chance pour la suite et j'espère que vous serez entendu par les pouvoirs publics.
Eh bien, écoutez, nous également. Merci beaucoup en tout cas de votre émission.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cesse à la France avec Thibaut le French Trotter.
Et cette semaine, vous êtes allé faire une petite cure de soleil provençal et vous en avez profité pour visiter une belle entreprise emblématique de la région, Thibaut.
Ah oui, cette entreprise n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la plus ancienne manufacture de céramique de la région. Vous en avez certainement entendu parler, c'est la poterie Ravel.
Ah mais oui, les femmes de la poterie Ravel.
Exactement. Et son savoir-faire est unique parce qu'elle produit depuis plus de 180 ans des pots, des jarres, des vases, dans la pure tradition provençale. Et elle est restée familiale, comme on disait, car elle est dirigée aujourd'hui par Marion et Julie.
C'est ça, Marion et Julie, je cherchais leur prénom.
Qui représentent la cinquième génération des Ravel. Et c'est Marion qui m'a fait faire la visite. On est à Aubagne, au pied du Garlaban, cher à Marcel Pagnol.
Alors, quand vous arrivez, alors vous êtes un peu effectivement dans un petit village. Vous arrivez comme dans un petit village avec une grande cour, des murs tapissés de lierre quand c'est l'été, une grande cheminée, des cyprès, des oliviers, beaucoup de pots plantés comme un petit jardin.
Et des chats.
Et des chats, ouais, qui ont élu domicile. En fait, on est chez eux et on déambule. Ça, c'est les extérieurs dans cette cour typique d'une manufacture de céramique. Et puis, d'abord, vous êtes accueillis. On va vous faire un petit une petite topo sur l'histoire du lieu. Et puis après, on part pour la balade qui va durer 30-40 minutes. Et là, vous allez découvrir un cycle de fabrication, c'est-à-dire comment on fait nos pots de jardin, de la fabrication de la pâte argileuse, parce que nous sommes très très rares aujourd'hui à pouvoir fabriquer encore notre pâte argileuse sur place. C'est-à-dire, on reçoit de l'argile en vrac, on la transforme en pâte. C'est un vrai métier, c'est le métier de glaisier. Et puis cette pâte, elle va partir dans les différents ateliers pour les potiers, pour les mouleurs, pour les tourneurs. Enfin, chaque atelier a besoin d'une pâte différente.
En plus, vous étiez bien accompagnés. Hein. Marion et Julie sont très charmantes.
Merci à elles, vraiment très sympa.
Et alors, cette manufacture provençale, on l'a bien compris, hein, elle est vraiment restée dans son jus. Mais le savoir-faire, il a changé au fil des années? Il est resté exactement le même?
Que ce soit pour le tournage ou le moulage, en fait, ça n'a pas bougé. Ils utilisent des techniques antiques. Et d'ailleurs, le savoir-faire est labellisé Entreprise du patrimoine vivant, un label que vous connaissez bien, Nathalie.
Bien sûr.
Qui est dédié au savoir-faire artisanaux d'excellence. Et si vous voulez, on va continuer la visite.
On va aller découvrir l'atelier de Victor, notre potier, notre jeune potier, qui, comme il y a 10 000 ans, fait des pots. Alors, à la main, et c'est trop beau de le voir, c'est un vrai atelier de potier qui n'a pas changé non plus. Accroché à chaque clou, vous découvrez toutes les formes qu'il est capable de faire, les cruches, les pichets, les saladiers, les vases à bouquets, les tians, les petits pots de jardin, etc.
Allons voir Victor.
Allons voir Victor.
Bonjour. Depuis quand maintenant vous faites ce métier?
J'ai commencé à apprendre il y a 12 ans. Après, ça fait 4 ans que je travaille ici.
Voilà. C'est un métier qui s'apprend comment?
Alors après, il y a plein de méthodes. Moi, j'ai commencé par faire une école à Dijon. Mm-hmm. Et après, j'ai suivi encore un cursus pendant 4 années supplémentaires spécialisé dans la céramique. Et puis après, le métier de tourneur, ça s'apprend surtout sur le tas. Hein. C'est long à apprendre. Et du coup, j'ai pas mal pratiqué pendant quelques années. Et je pratique encore maintenant, je continue d'apprendre.
Victor, vous avez parlé de tourneur. Je me retourne vers vous, Marion. Alors, quelles sont les principales étapes?
Après la fabrication de la pâte argileuse, il y a par exemple le métier de potier, de Victor notamment, donc qui va tourner ici. Après, on peut aller voir les mouleurs, c'est-à-dire que c'est une autre façon de travailler. Ça nous permet également de faire des pots de jardin, un petit peu plus gros. Et là, on va travailler dans cet atelier de moulage avec des moules en plâtre.
On y va ?
On y va ! Donc là, on arrive chez Florian, un mouleur, un des ateliers de moulage. Ici, vous voyez, on est entouré de moules en plâtre. Donc, on voit Florian travailler, on le voit mouler, on le voit démouler, et on le voit aussi, c'est la dernière phase de fabrication, finir son pot. Parce que quand le produit est démoulé, qui sort de son moule, il n'est pas fini, il faut reprendre sa collerette, s'il y a un décor, il faut le travailler, il faut le percer, et il faut l'estampiller. Alors, après, ce qu'on voit...
La cuisson, j'imagine.
Exactement, alors on va voir les fours.
Je suis Donc on est devant ce fameux four.
Donc maintenant, bien sûr, on est en conduite gaz qui permet une meilleure qualité et la cuisson va durer 48 heures.
48 heures, donc pendant 2 jours complets.
Exactement.
Va cuire,
va monter à peu près à 1000 degrés pour bien cuire au cœur. Il est important qu'il n'y ait plus de molécules d'eau, que le pot soit bien cuit. Voilà. C'est ce qui fait la qualité française.
C'est génial parce qu'on assiste vraiment, en écoutant le reportage, à toutes les étapes de fabrication de la terre jusqu'au produit finalisé. Si on a envie d'assister à cette visite, d'ailleurs il faut y aller, comment fait-on en quelques mots Thibaut?
C'est tout simple, il faut venir le jeudi, c'est le jour des visites. On se présente à l'accueil à 10h et voilà. Et l'adresse est sur le site poterie-ravel.com. Et pour être complet, la visite se termine par la découverte de leur immense magasin. Il y a des scénographies qui vont plonger dans les traditions provençales. Vous allez adorer.
Merci beaucoup Thibaut.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Merci à vous chers auditeurs, il faut aller visiter les coulisses de ces entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle tous les dimanches, on met en avant toutes ces belles maisons qui sont ouvertes à la visite. Allez, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.